La Sainte Vierge, modèle de la femme chrétienne. Voilà le titre de cette conférence, et je suis sûr déjà que ce titre vous fait peur. La Sainte Vierge, modèle de la femme chrétienne. Allez, on le savait, les abbés veulent toutes nous mettre au couvent. Comment pouvons-nous imiter la Sainte Vierge? C'est pas possible. Nous sommes quand même des mères de famille, etc. Non, évidemment. Évidemment. Ici, donc, vous êtes venus pour une retraite de vie chrétienne. C'est-à-dire que nous devons voir l'ensemble du plan de Dieu. Notre Seigneur est venu nous racheter, vous l'avez vu, il a institué des sacrements, il a fondé son Église. Mais notre Seigneur est Dieu par nature, Fils de Dieu engendré de toute éternité. Mais il est aussi véritablement homme, Fils de l'homme par naissance, par sa naissance temporelle, dans le sein d'une femme, donc la Vierge Marie. Donc notre vie chrétienne ne peut donc pas ne pas prendre en compte la Sainte Vierge. Puisque c'est indispensable pour notre vie chrétienne de passer par Jésus-Christ, j'espère que vous l'avez bien compris, eh bien on ne peut pas écarter de notre vie la Sainte Vierge. Ce n'est pas possible. C'est ce que dit très bien Don Marmion. Bon, toujours Christ vit de l'âme. La piété d'une âme ne serait vraiment pas chrétienne si elle ne comprenait pas dans son objet la mère du Verbe incarné. La dévotion envers la Vierge Marie est non seulement importante, mais nécessaire si nous voulons puiser avec abondance à la source de vie. Vous voyez, Don Marmion dit bien, la dévotion à la Sainte Vierge, ce n'est pas quelque chose de facultatif ou d'important, non, mais c'est nécessaire. Séparer le Christ de sa mère, dans notre piété, c'est diviser le Christ. C'est perdre de vue le rôle essentiel de son humanité sainte dans la collation de la grâce divine. Quand on abandonne la mère, on ne comprend plus le Fils. Effectivement, ne pas considérer notre Seigneur uniquement Dieu. Je considère Jésus-Christ, deuxième personne de la Sainte Trinité, Verbe de Dieu. Et puis, on ne considère pas son humanité. Donc, si on ne considère pas son humanité, évidemment, on ne va pas considérer la Sainte Vierge, puisque notre Seigneur a eu son humanité par la Sainte Vierge. Non, c'est diviser notre Seigneur. On ne peut pas enlever sa nature divine et sa nature humaine. Donc, quand on abandonne la mère, on ne comprend plus le Fils. N'est-ce pas ce qui est arrivé aux nations protestantes ? Pour avoir, sous prétexte de ne pas déroger à la dignité d'un médiateur unique, rejeté la dévotion à Marie, n'ont-elles pas fini par perdre jusqu'à la foi dans la divinité du Christ lui-même? Effectivement, les protestants, eux, ne considèrent pas la Sainte Vierge parce qu'ils disent qu'on a un seul médiateur entre Dieu et nous, Jésus-Christ. C'est vrai, mais ça n'exclut pas la Sainte Vierge. Si le Christ Jésus est notre Sauveur, notre Médiateur, notre Frère aîné, parce qu'il a revêtu la nature humaine, comment l'aimer véritablement? Comment lui ressembler parfaitement, sans avoir pour celle dont il tient précisément cette nature humaine, une dévotion particulière? Donc nous verrons, dans un premier point, le fondement de notre dévotion envers Marie, et puis ensuite, en quoi la Sainte Vierge est notre modèle. Donc, fondement de notre dévotion envers Marie. Donc, le rôle de la Très Sainte Vierge dans notre vie chrétienne dépend de son étroite union avec Jésus. C'est-à-dire, en clair, de ce dogme de la maternité divine, qui a pour corollaire sa dignité et son rôle de mère des hommes. Donc, tout se rattache au dogme de la maternité divine, le fait que la Sainte Vierge est mère de Dieu. C'est au jour de l'incarnation que Marie devient la mère de Jésus. la mère d'un fils Dieu, la mère de Dieu. C'est à ce jour-là. Donc essayons de nous remettre en esprit à Nazareth, ce jour de l'Annonciation. Donc l'ange apparaît à la jeune Vierge, et après l'avoir saluée, il lui fait part donc de son message. Voici que vous concevrez en votre sein, et vous enfanterez un fils, et vous lui donnerez le nom de Jésus. Il sera grand, on l'appellera le Fils du Très-Haut, son règne n'aura point de fin. Quand elle entend ça, qu'est-ce que fait la Sainte Vierge? Elle pose une question. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, en clair, comment ça pourra se faire puisque je suis vierge, puisque j'ai fait ce vœu de virginité? Donc elle pose une question, elle ne comprend pas. L'ange lui répond, bien l'Esprit Saint viendra en vous et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'être qui naîtra de vous dans la sainteté sera appelé Fils de Dieu. Et pour confirmer cela, l'ange Gabriel lui donne l'exemple de sa cousine Élisabeth, qui, malgré sa stérilité, en est à son 6e mois. En disant tout simplement, l'ange lui dit, ben, rien n'est impossible à Dieu. Ça veut dire ça. Ben oui. Vous, ça sera possible, comme c'est possible que votre cousine Élisabeth attende un fils. Donc Dieu propose, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, ce mystère de l'incarnation, qui va se réaliser que lorsque la Sainte Vierge donnera son accord. Donc le bon Dieu ne violente pas la Sainte Vierge. Il lui expose le plan et il attend son accord. Donc, si vous voulez, la réalisation de l'incarnation est suspendue au libre acquiescement de Marie. Et selon saint Thomas, à ce moment-là, nous dit-il, Marie nous représente tous dans sa personne. C'est comme si Dieu attendait la réponse de l'humanité à laquelle il veut s'unir. Donc, si vous voulez, un grand moment. Et puis, eh bien, Marie va donner sa réponse. Donc, réponse pleine de foi, hein, dans la parole céleste. Entièrement, elle est entièrement soumise à la volonté de Dieu manifestée à elle par l'ange Gabriel. Donc, elle va répondre par un abandon absolu. Entier. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Le fiat. Fiat mihi secundum verbum tuum. Donc ce fiat, eh bien, c'est le consentement de Marie au plan divin. Au plan divin de la rédemption, que l'ange vient lui exposer. On peut dire que c'est un petit peu ce fiat de Marie correspond un peu au fiat de la création. Mais là, par Marie, c'est un monde nouveau, un monde infiniment supérieur qui va surgir, un monde de grâce, que Dieu va faire surgir grâce à cet acquiescement. Car c'est à ce moment-là que le Verbe divin, donc la deuxième personne de la Sainte Trinité, s'incarne en Marie. Et verbum caro factum est. Donc telle est l'ineffable union qui existe entre Jésus et Marie. Elle est sa mère, il est son fils. Cette union est indissoluble. Et comme Jésus est en même temps le Fils de Dieu venu pour sauver le monde, Marie est en fait intimement associée au mystère vital de tout le christianisme. Donc c'est vraiment là le fondement de toutes ses grandeurs, le privilège spécial de sa maternité divine. Et c'est parce que Marie est mère de Dieu que découlent tous les autres privilèges. Bon, je n'en parlerai pas parce que ça serait trop long, mais son Immaculée Conception, etc., tous les autres privilèges de la Sainte Vierge, sa virginité perpétuelle, etc., tout vient à cause de cette maternité divine, parce qu'elle est mère de Dieu. Donc parce qu'elle est mère de Dieu, eh bien elle est immaculée, sans tache, etc. Virginité perpétuelle, sainteté parfaite, etc. Donc tout se ramène à cette maternité divine. Donc Marie, vraiment mère de Jésus, mère de Dieu. Bon, vous savez que ça a été proclamé 2 fois par le concile d'Éphèse en 431. Donc c'est un dogme 2 fois. Mais ensuite, on peut dire aussi que c'est à ce jour de l'incarnation, donc toujours à ce moment-là, que Marie devient aussi la mère des hommes. Pourquoi ? Parce que Jésus est le chef de l'humanité régénérée, donc la tête du corps mystique dont nous sommes les membres. Or Marie, mère du Sauveur, l'engendre tout entier. Donc par conséquent aussi comme chef de l'humanité, comme tête du corps mystique. Quand elle va donner la vie à notre Seigneur, bien c'est aussi en tant que chef de l'humanité. Donc elle va engendrer aussi tous ses membres, donc tous ceux qui sont incorporés à son Fils. Donc c'est-à-dire tous ceux qui sont régénérés ou ceux qui sont appelés à le devenir. Donc ça veut dire, puisqu'elle devient mère de Jésus selon la chair, elle devient en même temps la mère des hommes selon l'esprit. Donc c'est à ce moment de l'incarnation. Alors évidemment, la scène du calvaire va ne faire que confirmer cette vérité. C'est-à-dire au moment même où notre rédemption va être complétée par la mort du Sauveur, bien vous savez, vous connaissez cette scène, notre Seigneur dit à Marie en lui montrant Saint Jean, qui représente tous ses disciples présents et futurs, voici votre fils, et à Saint Jean lui-même, voici votre mère. Donc là, c'était déclaré qu'effectivement, que tous ceux qui seront régénérés par cette rédemption étaient les enfants spirituels de Marie. Donc le calvaire, si vous voulez, confirme ce qui s'est passé le jour de l'Annonciation, quand Marie a donné son fiat. Donc vous voyez, c'est une belle réalité. Qu'effectivement, Notre-Dame, à ce moment-là, est devenue aussi vraiment mère des hommes, à ce moment de l'incarnation. Donc c'est de ce double titre de mère de Dieu et de mère des hommes que découle le rôle de Marie dans notre vie spirituelle, parce qu'elle est mère de Dieu et mère des hommes. Voilà donc le fondement de notre dévotion envers Marie. Pourquoi nous devons être dévoués, avoir cette dévotion envers Marie ? Parce qu'elle est mère de Dieu et mère des hommes. Donc vous voyez bien qu'avec un tel fondement, ce n'est pas un fondement sentimental. Oui, moi j'ai une grande dévotion à la Sainte Vierge parce que j'aime beaucoup les petites fleurs qui sont sur sa robe, ou ce qu'elle a sur ses pieds. J'aime bien son habit, le voile lui va très bien. C'est de dire des bêtises. Donc vous voyez, la dévotion envers Marie, non, c'est vraiment fondé, c'est quelque chose de théologique, c'est pas quelque chose de sentimental. Alors voyons maintenant la Sainte Vierge, notre modèle. Comment elle peut être notre modèle ? Évidemment, après Jésus, donc Marie est le plus beau modèle que nous puissions imiter. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle n'a jamais commis la moindre faute, évidemment la moindre résistance à la grâce. Elle a exécuté à la lettre ce qu'elle a dit à l'ange, « Fiat mihi secundum verbum tuum, qu'il me soit fait selon votre parole. » C'est ainsi que tous les pères de l'Église, en particulier saint Ambroise, la représente comme le modèle achevé de toutes les vertus. Charitable et prévenante pour toutes ses compagnes, toujours prompte à leur rendre service, ne disant, ne faisant rien qui pût leur causer la moindre peine, les aimant toutes et aimées de toutes. Donc ce modèle, la Sainte Vierge, qui est pour nous un modèle, est aussi plein d'attirance, c'est un modèle qui doit nous attirer. Pourquoi ? Parce qu'elle est une simple créature, comme nous. Elle n'est pas Dieu. Non, c'est une créature comme nous. On pourrait dire c'est une sœur, c'est une mère que nous nous sentons portés à imiter. Au moins, ne fût-ce que pour lui témoigner notre reconnaissance, notre vénération, notre amour. Donc c'est un modèle vraiment qui doit nous attirer. On peut même dire, donc, pour vous, enfin pour tous, mais peut-être même particulièrement pour vous, que c'est un modèle même facile à imiter. Au moins en ce sens qu'on peut dire que Marie s'est sanctifiée dans la vie commune, Dans l'accomplissement de ses devoirs de jeune fille, de mère, dans les humbles soins du ménage, dans la vie cachée, dans tout ce que vous connaissez. Bah oui, la Sainte Vierge est sanctifiée là. Donc c'est vraiment un modèle facile à imiter en ce sens. Elle s'est sanctifiée dans les joies comme dans les tristesses, dans l'exaltation comme dans les humiliations les plus profondes. Donc on est certain d'être dans la bonne voie, ou d'en voir très sûr quand nous imitons la Vierge Marie. Et c'est d'ailleurs le meilleur moyen d'imiter Jésus, notre Seigneur, et d'obtenir sa puissante médiation. Alors essayons de voir maintenant quelques vertus de la très sainte Vierge. Par quelques vertus, comment l'imiter dans certaines de ses vertus. Tout d'abord, la foi. Bon, on vous en a parlé. Mais la Sainte Vierge est un modèle. Modèle de foi. Déjà, à l'Annonciation, dès qu'elle... la vérité divine sur le mystère de l'incarnation rédemptrice lui est assez proposée, elle a cru tout de suite. D'ailleurs, c'est Sainte Élisabeth, au moment de la visitation, va lui dire « Heureuse celle qui a cru, car elles seront accomplies les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur. » Donc, Sainte Élisabeth, elle aussi, avait une inspiration du Saint-Esprit. Et elle va féliciter sa cousine, Marie, « Heureuse celle qui a cru. » Donc, vous voyez, tout de suite, elle va louer la foi de Marie. On peut voir la foi de la Sainte Vierge, et finalement, essayer de repasser quelques étapes très rapidement de sa vie, à Noël. À Noël, son fils qu'elle voit naître, eh bien, elle croit tout de suite qu'il est le créateur de l'univers. Elle porte dans ses bras le créateur de l'univers. Et malgré toute la fragilité de ce corps d'enfant, elle croit à sa toute puissance. Oui, ce fils est vraiment Dieu. On peut même dire, quand Jésus va commencer à balbutier, eh bien, elle croit qu'il est la sagesse même. Ensuite, quand elle va être obligée de fuir la colère d'Hérode, eh bien, néanmoins, elle sait par la foi que son enfant, Jésus, est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Au jour de la circoncision et de la présentation au temple, eh bien, c'est déjà la foi. Elle va s'ouvrir au mystère de la rédemption. Voir ce sang de notre Seigneur qui commence à couler, déjà ça va évoquer en elle ce mystère de la rédemption. Puis évidemment, on va voir sa foi de manière encore plus forte pendant la Passion. Quand les apôtres, à l'exception de Saint Jean, vont tous s'éloigner, elle reste au pied de la croix, debout, sans s'évanouir, stabat mater. Elle est debout. Donc malgré sa mort, sa passion, elle ne cesse pas un instant de croire que son fils est vraiment le fils de Dieu. Elle n'a jamais douté qu'il est le Dieu même, l'agneau de Dieu qui efface les péchés du monde. Et qu'en apparence il est peut-être vaincu, mais qu'en réalité il est le vainqueur du démon et du péché. Et que donc, dans 3 jours, il sera le vainqueur de la mort par sa résurrection, comme il l'a annoncé. Donc la Sainte Vierge n'a jamais perdu la foi. Et au contraire, cet acte de foi de Marie au calvaire, à cette heure vraiment la plus obscure, enfin, essayez de vous mettre dans cette atmosphère, imaginez le tableau, enfin, je crois que vous avez médité là-dessus. Mais imaginez cet acte de foi de Marie dans ce moment-là, c'est vraiment le plus grand acte de foi qui n'ait jamais existé. Parce que c'était celui dont l'objet était le plus difficile. Que Jésus remportait la plus grande victoire par la plus complète immolation. Et oui, notre Seigneur remporte la plus belle victoire, mais vraiment par la plus basse, enfin je veux dire, l'humiliation la plus complète. Et là, il fallait un acte de foi. Et c'est ainsi, c'est celui qui, l'acte de foi de toute l'histoire de l'humanité qui sera le plus grand. Donc vraiment foi admirable de Notre-Dame. Ensuite, une autre vertu, évidemment, les vertus théologales. Bon, je fais assez rapidement, mais c'est facile à comprendre. L'espérance. L'espérance de la Sainte Vierge. Donc l'espérance par laquelle elle tendait à posséder Dieu qu'elle ne voyait pas encore. Était en réalité une parfaite confiance de la Sainte Vierge, qui s'appuyait non pas sur elle-même, évidemment, mais sur la miséricorde divine, sur cette toute-puissance auxiliatrice de Dieu. Bon, cette certitude de l'espérance en Marie était d'autant plus grande, c'est vrai qu'elle était confirmée en grâce, qu'elle était préservée de toute faute. Et donc, elle était aussi bien préservée de la présomption que du manque de confiance en Dieu. Mais elle avait toujours cette belle espérance. Alors, quand est-ce qu'elle a exercé cette espérance parfaite? Eh bien, sans doute dans sa jeunesse, enfin même certainement dans sa jeunesse, quand elle avait le désir ardent de la venue du Messie. Parce que tous les gens pieux, à l'époque, attendaient impatiemment le Messie. Et la Sainte Vierge a plus forte raison. Elle connaissait les prophéties, elle connaissait que le temps du Messie approchait, donc elle l'attendait avec une grande, ferme espérance. On voit aussi cette espérance dans l'Évangile, quand elle n'a rien dit à Saint Joseph, quand elle a l'annonciation, donc elle n'a pas parlé à Saint Joseph, donc la Sainte Vierge va rendre visite à sa cousine Élisabeth, puis quand elle revient trois mois plus tard, un peu plus de trois mois, ben évidemment, ça commence à se voir qu'elle attend un enfant, et Saint Joseph n'était pas au courant. Ben, c'est tout le doute de Saint Joseph, c'est cette grande épreuve de Saint Joseph. Et la Sainte Vierge ne lui dit rien. On peut être surpris quand elle aurait pu lui dire, quand même, pour éviter ce doute. Non, elle dit rien. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle était pleine d'espérance. Dans ce que, eh bien, puisque elle avait reçu d'un ange cette nouvelle extraordinaire de l'Annonciation, eh bien, elle s'est dit, eh bien, c'est à un ange, c'est à Dieu de le révéler aussi directement à Saint Joseph. Donc, elle a cette ferme espérance sur ce secours de Dieu. Non, ce n'est pas à moi de lui annoncer, c'est à Dieu. Effectivement, c'est ce qui se passera. C'est un ange qui viendra l'annoncer aussi à Saint Joseph. Bon, on imagine aussi son espérance quand elle a dû fuir en Égypte. On en voulait à son enfant, à notre Seigneur, on voulait le faire mourir. Bon, elle s'appuyait sur ce secours de Dieu. Plus tard au calvaire aussi, lorsque tout paraît désespéré, à vue humaine, c'est vraiment, c'était la fin. Mais là, non, elle a gardé cette espérance. Elle espéra la parfaite et prochaine victoire de son fils sur la mort, comme lui-même l'avait annoncé. Elle avait bientôt tout enregistré. Puis on imagine aussi sa confiance au milieu des apôtres après, au milieu de leur lutte incessante. Donc aussi ferme espérance de Notre-Dame. Donc là aussi, belle vertu à imiter. Sa charité. Charité, son amour de Dieu pour lui-même, son amour des âmes en Dieu, était aussi très important dès le début. En elle, il n'y avait aucune passion désordonnée, aucune vaine inquiétude, aucune distraction qui pouvait, je veux dire, ralentir son élan vers Dieu, son zèle pour la régénération des âmes. Donc elle s'offrait complètement à Dieu et offrait son Fils aussi pour notre salut. Il faut bien vous dire que la Sainte Vierge comprenait tout à fait la mission de notre Seigneur. On voit cette charité éminente de Notre-Dame. Disons qu'elle l'a exercée de manière particulière, plus spécialement lorsqu'elle s'est consacrée complètement à Dieu, lors de sa présentation au temple, lorsqu'elle a fait son vœu de virginité. Ensuite, on le voit évidemment à l'Annonciation, quand elle va donner son consentement à une parfaite conformité à la volonté de Dieu, et par amour pour toutes les âmes à sauver. Parce qu'il faut bien se dire, quand Notre-Dame dit son fiat, donc elle accepte d'être la mère du Messie, elle sait à quoi elle s'attend, à toutes ses souffrances. Puisqu'elle connaissait parfaitement les Saintes Écritures. Donc l'annonce d'un Messie souffrant. Le très beau chapitre d'Isaïe, chapitre 53, vous pouvez lire, on a l'impression qu'Isaïe, donc 7-8 siècles avant notre Seigneur, avait déjà vu la Passion, annonce déjà la Passion. Ça, elle le connaissait, la Sainte Vierge. Donc elle sait parfaitement qu'en disant fiat, oui, eh bien, elle aura à souffrir. Donc elle le fait vraiment par amour pour Dieu et pour l'amour des âmes à sauver. De même, quand elle va le présenter au temple, elle va offrir, donc 40 jours après la naissance de notre Seigneur, elle va l'offrir, elle va le présenter au temple. Eh bien, acte de charité, Notre-Dame offre son fils à Dieu. Elle s'en détache. Évidemment, en l'offrant particulièrement au calvaire, elle aussi acte de charité éminente. Quand elle a participé à toutes ses souffrances pour la gloire de Dieu, en esprit de réparation, pour le salut de toutes les âmes. Imaginez aussi cette charité de la Sainte Vierge qui s'offre quand elle entend la foule que son sang retombe sur nous, sur nos enfants. On peut imaginer la Sainte Vierge s'unir à la prière de son fils, « Père, pardonnez-leur, ils ne savent ce qu'ils font, ce qu'ils disent. » C'est pour ça d'ailleurs l'Église applique à la Sainte Vierge des paroles du livre de l'Ecclésiastique, chapitre 24, on le voit dans la liturgie, « Je suis la mère du pur amour, de la crainte de Dieu, de la sagesse et de la sainte espérance. » Donc l'Église lui applique ces paroles, vraiment du pur amour. Voilà, donc vous voyez, ces trois vertus théologales, Notre-Dame les a pratiquées de manière extraordinaire, et donc on doit imiter la Sainte Vierge dans ses vertus. Ensuite, est-ce que Notre-Dame a pratiqué de manière particulière les vertus morales, quelques vertus morales? Oui, évidemment. La prudence, par exemple. Donc la prudence qui dirigeait tous ses actes. L'Église l'appelle Vierge très prudente. Dans ses litanies, Vierge très prudente. Eh bien, on le voit, donc encore une fois, je reviens là, à l'Annonciation. Lorsque troublée par les paroles de l'ange, elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. Donc, elle ne croit pas tout de suite, elle est troublée, et elle va poser cette question, comment cela se fera-t-il? Donc là, elle exerce cette vertu de prudence. Elle ne dit pas oui tout de suite, non, elle raisonne, elle dit, je ne comprends pas, et je ne comprends pas tout, donc elle pose une question. Oui, vertu de prudence. Mais dès qu'elle est éclairée, qu'est-ce qu'elle dit tout de suite? Voici la servante du Seigneur. Elle est éclairée, oui, tout de suite, oui, j'admets. Mais vous voyez, elle a demandé à être éclairée. Donc on doit aussi exercer cette vertu de prudence. Bon, la vertu de justice aussi, on voit cette vertu où elle a évité toute faute contraire, en observant toutes les prescriptions de la loi. Donc la vertu de justice rendra chacun ce qui lui est dû. Donc rendra à Dieu ce qui lui est dû par la vertu de religion, rendre au prochain ce qui lui est dû. Comment elle l'exerce? Eh bien, elle observe toutes les prescriptions de la loi, alors qu'elle n'y est pas tenue. Par exemple, cette loi de la purification légale, alors qu'elle n'avait aucun besoin d'être purifiée. Ben, elle le fait quand même. Elle accomplit la loi de Moïse, donc qui imposait aux mères d'aller au temple, donc d'avoir une cérémonie, au bout de 40 jours. Eh bien, elle y va, alors qu'elle n'avait évidemment pas besoin d'être purifiée. Donc, elle a vraiment bien exercé cette vertu de religion vis-à-vis de Dieu, cette vertu de justice en se consacrant totalement à Dieu par son vœu de virginité, en offrant son fils lors de la présentation, etc. Et au moment de la croix. Et puis en même temps, cette vertu de justice était unie à une vertu de miséricorde. C'est qu'avec son fils, elle pardonne toutes les injures qui lui étaient faites. C'est pour ça que l'Église appelle Mère de miséricorde, Notre-Dame du perpétuel secours. C'est pas pour rien. Ensuite, on voit en Marie cette vertu de force aussi. Force, fermeté d'âme, qui ne se laisse pas abattre par les plus grands dangers, les plus durs travaux, les plus pénibles afflictions. On le voit évidemment surtout dans la Passion, lorsqu'elle resta debout au pied de la croix. Donc là, elle a vraiment eu ce don de force, ce qui lui a permis d'obtenir ce qu'on appelle le martyr du cœur. Et c'est pour ça que la Sainte Vierge, on l'appelle la reine des martyrs, du fait qu'elle a participé intérieurement aux douleurs de son fils, plus profondément et plus généreusement que tous les martyrs dans tous leurs tourments extérieurs. Donc c'était vraiment un martyr du cœur. pour ça que Notre-Dame est vraiment reine des martyrs. On peut même voir la vertu de tempérance aussi. Ses facultés supérieures dominaient parfaitement sa sensibilité. Elle était vraiment l'image de Dieu, qui resplendissait en elle comme dans un pur miroir, sans aucune trace d'imperfection. Mais le moindre mouvement d'orgueil ou de vanité. C'est-à-dire, elle reconnaissait pratiquement qu'elle n'était rien. Et que sans la grâce, elle ne pouvait rien dans l'ordre du salut. Elle a vraiment... Elle s'est inclinée devant l'infinie majesté de Dieu. Elle a mis toute sa grandeur en Dieu. Et là, on le voit bien le jour de l'Annonciation. Je suis la servante du Seigneur. Je suis la servante du Seigneur, alors qu'en réalité, l'ange vient de lui dire qu'elle est la mère de Dieu. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Non, elle dit, je suis uniquement une servante. Alors que mère de Dieu, tout de suite, elle est au-dessus de toutes les créatures. Mais non, elle se dit tout simplement la servante. Donc, bel exemple. Puis le Magnificat. Magnificat, il a regardé la bassesse de sa servante. Donc vraiment Notre-Dame qui remonte tout vers Dieu. Là aussi, on a dû vous parler de l'humilité, je crois, oui. Donc c'est ça, l'humilité, ça ne veut pas dire ne pas reconnaître ses qualités. On a tous des qualités, on en a tous, le bon Dieu nous en a donné. Mais précisément, on les remonte vers Dieu. On dit, ben, mon Dieu, c'est vous qui me les avez données, donc soyez bénis. C'est ce que fait la Sainte Vierge là-dessus, elle est vraiment le grand modèle d'humilité. Et toute sa vie, son humilité va se manifester, je crois qu'on peut facilement l'imaginer, par tout son extérieur, sa parfaite modestie, sa pauvreté volontaire, ses travaux manuels très simples qu'elle accomplit, alors qu'elle a reçu les plus grandes grâces. Les plus grandes grâces qu'aucune créature ne recevra. Donc elle ne s'est pas fait construire un immeuble 3 étoiles, 5 étoiles à Jérusalem, je suis la mère de Dieu, je suis dans mon palace... Je reçois qu'entre 2 heures et 5 heures. Non. L'humilité, elle est restée tout simplement à Nazareth. Avec un mari qui était charpentier, humble charpentier. C'est vraiment un bel exemple quand nous, on est un peu vaniteux. Quand on contemple un peu la Sainte Vierge, je dis, mais mon Dieu, que nous sommes bêtes. C'est vrai, quand on, si vous êtes tenté d'être un peu coquette, etc., bah, pensez à la Sainte Vierge. Et tout de suite, bon, bah oui, c'est vrai, puis on abandonne ça, quoi. Vraiment l'humilité de la Sainte Vierge. On peut voir aussi une autre vertu, la douceur, qui correspondait à son humilité. Douceur même à l'égard de ceux qui crucifiaient son fils. Elle n'a proféré aucune parole d'indignation. Mais avec lui, elle leur a pardonné en priant pour eux. C'est la plus grande perfection de la douceur unie à celle de la force. Ben, imaginez un peu, bon je pense plus à celle d'entre vous qui êtes mère de famille, imaginez quelqu'un qui fait du mal à un de vos enfants. Ben, vous allez le défendre déjà, et puis enfin, c'est normal, c'est l'instinct maternel qui fait tout pour défendre ses enfants. Mais voyez la Sainte Vierge au pied de la croix. Quel exemple de force et de douceur. Voilà un petit peu, si vous voulez, quelques vertus de la Sainte Vierge qu'elle a pratiquées et qu'évidemment nous pouvons mettre aussi en pratique. Donc imitons bien la Sainte Vierge dans toutes ses vertus. Je vais vous lire à ce sujet un texte de Pie XII qui fait une allocution aux enfants de Marie. Donc, vous savez, ces enfants de Marie, ben, c'était des jeunes filles. Enfants qui se consacraient à la Sainte Vierge, qui essayaient de vivre chrétiennement, c'est une manière de vivre chrétiennement. Donc il fait un beau discours, il essaye d'appliquer précisément, surtout sur deux vertus, la pureté et la force, en lien avec la Sainte Vierge. Donc il s'adresse ainsi à ses enfants de Marie le 25 octobre 1942. Pie XII. Pureté et force. Ces deux vertus, nécessaires en tous les temps, mais plus que jamais dans le nôtre, sont, les deux ensemble, le véritable charme et la protection de la jeune fille qui réunit en elle la grâce et la dignité, la retenue pleine de modestie et la franche et audacieuse activité. Pure, incomparablement plus pure que tous les anges dont elle est la reine, l'Immaculée est aussi la femme forte, active, fidèle à tous ses devoirs, empressée à les accomplir en toutes circonstances, fût-elle dure et terrible. À peine l'ange Gabriel lui a-t-il porté le divin message que vous pouvez la contempler, servante du Seigneur, fixant l'éminente dignité et la haute charge où elle est appelée, Mère glorieuse du Christ. Au pied de la croix, Mère douloureuse du Rédempteur, Mère de l'humanité souffrante et misérable, secours des chrétiens, refuge des pécheurs, consolatrice des affligés. Consciente de tant de grandeur et d'un tel fardeau, la Vierge sans hésiter répond oui à l'ange. Renfermée comme elle était jusqu'alors dans le recueillement du temple, dans la solitude de sa petite demeure de Nazareth, la voici maintenant qui marche d'un pas rapide par les sentiers montagneux, impatiente de visiter et d'assister sa parente Élisabeth. Au début de la vie publique, nous la voyons aux noces de Cana, veillant à ce que rien ne manque à la joie des époux et des convives. Perdue dans la foule, elle attend patiemment le moment de parler à Jésus. Le cœur transpercé d'un glaive, elle se tient debout au pied de la croix de son divin Fils. Au milieu des apôtres, elle prie et les prépare à recevoir la force d'en haut pour la diffusion de la bonne nouvelle. Vous, chère fille, n'oubliez pas que cette pureté, cette candeur doivent vous préparer au devoir de demain, vous soutenir d'ores et déjà dans les rudes devoirs d'aujourd'hui. Ce n'est pas tout à coup que Marie se trouva prête à dire son fiat. Elle s'y était préparée par sa force d'âme, non moins que par sa pureté. Jeune femme et jeune fille de notre temps, vous aussi vous devez regarder vers l'avenir. Vous entraîner dans la pureté et dans la force, vous rendre franchement prompte à passer du repos de la famille à la vie sainte et joyeuse, mais ardue également, d'épouse et de mère chrétienne. Dès maintenant, employez-vous à faire alterner les heures de liesse et de tranquillité de vos réunions avec l'activité extérieure, qui exige de vous un énergique et joyeux dévouement dans l'oubli de vous-même, dans l'accomplissement des devoirs de votre état, dans les fécondes entreprises de la charité. Comme Marie Immaculée, vous devez marcher, sinon à travers les montagnes, du moins par les rues et les places publiques, et agile, alerte, mais circonspecte, comme dans les excursions montagneuses, vous rendre là où vous appellent vos occupations. Vous devez, dans votre vie sociale, parmi vos parents, amis et connaissances, porter avec vous la gentillesse et l'aisance, l'honnête agrément d'une courtoisie aimable et empressée. Vous devez, en toute simplicité et prudence, vous mêler à une foule si diverse, affligée ou frivole, indifférente ou hostile. Debout au pied de la croix, vous avez à dominer vos impressions de peine ou de découragement, à vous maintenir ferme dans les épreuves de la vie pour compatir au malheur d'autrui, pour consoler et fortifier les autres. Ne voyez-vous pas quelle pureté et quelle force tout cela requiert, si vous voulez maintenant avoir le courage de faire chaque jour votre devoir, si vous voulez parmi tant d'immondices garder intacte la blancheur de votre voile, l'azur céleste de votre ruban. C'est un beau discours, comme il applique cet exemple de la Sainte Vierge à des jeunes filles, surtout sur la pureté et la force. Eh bien, en conclusion un petit peu de tout cela, donc vous voyez Marie notre modèle, eh bien évidemment, nous devons avoir une grande dévotion à Notre-Dame. Donc nous serons, comment avoir cette dévotion? Nous serons dévots à Marie si nous nous donnons complètement à elle et par elle à Dieu. En tout cela, ben, nous ne ferons qu'imiter Dieu, qui se donne à nous et nous donne son Fils par son intermédiaire. Donc on donnera notre intelligence par la vénération la plus profonde, notre volonté par une confiance absolue, notre cœur par l'amour le plus filial, et notre être tout entier par une imitation aussi parfaite que possible de ses vertus. Donc vénération envers la Sainte Vierge, bon, sans doute il y a des excès à éviter. Bon, les excès à éviter envers la Marie, ce serait de l'égaler à Dieu. Ce serait de faire la Sainte Vierge une déesse. Bon, je pense qu'on n'en est pas là. Ou en faire la source de la grâce. Non, évidemment, c'est Dieu qui donne la grâce. Mais tant qu'on la considère comme une créature, qui n'a de grandeur, de sainteté, de puissance qu'autant que Dieu lui en confère, il n'y a pas d'excès à craindre. C'est Dieu que nous vénérons en elle. La vénération qu'on doit avoir envers la Sainte Vierge doit être plus grande que celle que nous avons pour les anges ou pour les saints. Donc la Sainte Vierge, elle est au-dessus, même si vous avez une grande dévotion pour Sainte Rita ou n'importe quel autre saint ou sainte. Néanmoins, la Sainte Vierge, c'est au-dessus. Parce que, précisément, par sa dignité de mère de Dieu, par sa rôle de médiatrice, par sa sainteté, elle surpasse toutes les créatures. C'est pour ça qu'on appelle le culte envers la Sainte Vierge, non pas un culte de latrie, bon, ça c'est un culte d'adoration qu'on ne doit qu'à Dieu, on appelle un culte de duli pour les saints, et pour la Sainte Vierge, on appelle ça un culte d'hyperduli. Bon. Comme ça, après, vous pourrez dire ça à votre mari, il vous considérera savante. Donc, un culte supérieur à celui des saints. Ensuite, donc nous devons avoir une confiance absolue en la Sainte Vierge, qui est fondée sur sa puissance et sur sa bonté. La puissance de Marie ne vient non pas d'elle-même, mais de son pouvoir d'intercession. Dieu, ne voulant rien refuser de légitime à sa mère, puisqu'il la vénère et l'aime plus que toutes les autres créatures. Et puis bonté de la Sainte Vierge, évidemment, qui a une grande affection pour nous, qui reporte sur nous, membres de Jésus-Christ, l'affection qu'elle avait pour son Fils. Donc, comme une mère, je veux dire, qui vraiment nous a, on peut dire, enfantés dans la douleur au milieu des angoisses du calvaire, eh bien, elle aura d'autant plus d'amour pour nous que nous lui en avons plus coûté. Ça, je pense que vous pouvez bien le comprendre. Donc, notre confiance envers Marie doit être inébranlable et universelle. Inébranlable parce que malgré nos misères et nos fautes, eh bien, elle est une mère de miséricorde. Mère de miséricorde qui n'a pas à s'occuper de justice, mais qui a été choisie pour exercer avant tout la compassion, la bonté, la condescendance. Elle sait bien, elle nous connaît, elle sait que nous sommes exposés aux attaques de notre concupiscence, du monde, du démon. Eh bien, elle a pitié de nous, comme qui ne cessons pas d'être ses enfants, même lorsque nous sommes tombés dans le péché. Nous sommes toujours ses enfants, donc elle a pitié de nous. C'est-à-dire, dès que nous manifestons, la moindre bonne volonté, le désir de revenir à Dieu, bien tout de suite, elle va nous obtenir des grâces qui va exciter dans notre âme ces grands désirs de contrition. Donc vraiment, bonté, confiance inébranlable dans cette bonté de Marie. Et puis aussi, universelle, donc notre confiance doit être universelle. C'est-à-dire s'étendre à toutes les grâces dont nous avons besoin, que ce soit les grâces de conversion, d'avancement spirituel, de persévérance finale, ou cette grâce d'être préservée parmi tous les dangers qui nous guettent, des angoisses, des difficultés, etc. Donc, vraiment, avoir une confiance sans borne dans tous les domaines envers Marie. Puis à cette confiance, évidemment, savoir joindre un amour filial, plein de candeur, plein de simplicité, de tendresse, de générosité. Alors bien, cet amour va nous porter à l'imiter, donc dans ses vertus, on en a parlé. Donc comment se rapprocher de Marie? Bien, via un moyen très simple, que souvent le Saint-Louis-Marie Cagnon-Montfort, par exemple, ou M. Ollier donnait, c'est de faire toutes nos actions par Marie, avec Marie et en Marie. Qu'est-ce que ça veut dire? Par Marie, c'est-à-dire demander par elle les grâces dont nous avons besoin pour l'imiter. Selon l'expression que vous connaissez sans doute, « ad Jesum per Mariam », à Jésus par Marie. Donc c'est, on demande toutes les grâces dont nous avons besoin par la Sainte Vierge. Ensuite, faire avec Marie. C'est-à-dire faire toutes nos actions avec Marie, c'est-à-dire on la considère comme notre modèle et un peu aussi comme notre collaboratrice. En se demandant souvent, eh bien, que ferait Marie si elle était à ma place? Et donc, on l'a pris humblement de nous aider, à nous conformer, de conformer un peu nos actions à ses désirs. Donc, avec Marie, se dire, oui, effectivement, qu'aurait fait la Sainte Vierge à ma place? Et puis, faire nos actions en Marie, c'est-à-dire en dépendance avec notre bonne mère. C'est-à-dire, on rentre un peu dans ses vues, dans ses intentions. C'est-à-dire, on fait toutes nos actions comme elle pour glorifier Dieu. Mon âme glorifie le Seigneur. Magnificat. Anima mea dominum. Alors c'est avoir un petit peu dans cet esprit, par Marie, avec Marie en Marie, bien qu'il faut ensuite réciter toutes nos prières en l'honneur de la Sainte Vierge, notre Ave Maria, donc bien le dire, l'Angélus, et évidemment le chapelet, le rosaire, on vous en a parlé, mais Donc on s'unit un petit peu à ces mystères joyeux, ces mystères douloureux, ces mystères glorieux. Donc on sanctifie ainsi avec la Sainte Vierge et avec notre Seigneur bien nos joies, nos tristesses, nos gloires. Avec la Sainte Vierge, nos joies, nos tristesses, nos gloires, avec la Sainte Vierge. C'est dans ce même esprit qu'on peut faire les cinq premiers samedis du mois, qui a été demandé par Notre-Dame à Fatima. Donc, dans cet esprit de réparation, notre bonne mère est offensée par tous ses péchés, toutes ses ingratitudes. Eh bien, nous, de notre côté, essayons de réparer. Elle est venue nous demander ces cinq premiers samedis, essayons de les faire, comme je vous en ai parlé. Ensuite, mais je n'en parlerai pas, il y a une possibilité, c'est de se consacrer totalement à la Sainte Vierge selon le modèle de Saint Louis-Marie Grignion de Montfort. Bon, c'est là aussi, c'est très beau. Enfin, lisez avant le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, ou parlez-en au prêtre qui vous suit. Mais c'est vrai que c'est aussi une belle chose à faire. Alors, Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, précisément, parle des fruits de cette dévotion. Quels fruits on peut en tirer de cette grande dévotion vers Marie? Il dit que, bien que cette dévotion est un chemin pour aller à Dieu qui est plus facile, et un chemin plus parfait, plus court et plus sûr. Il y a que des avantages. Il dit que c'est une voie plus facile. Alors, voilà ce qu'il dit. On peut à la vérité arriver à l'union divine par d'autres chemins, mais ce sera par beaucoup plus de croix et de morts étranges, et avec beaucoup plus de difficultés que nous vaincrons plus difficilement. Il faudra passer par des nuits obscures, par des combats et des agonies étranges, par des montagnes escarpées, par des épines très piquantes et des déserts affreux. Oui, le tableau qui nous trace. Mais par le chemin de Marie, on passe plus doucement et plus tranquillement. On y trouve à la vérité de grands combats quand même à donner, mais cette bonne mère se rend si proche de ses fidèles serviteurs pour les éclairer dans leurs ténèbres, pour les éclaircir dans leurs doutes, les soutenir dans leurs combats et leurs difficultés, qu'en vérité, ce chemin pour trouver Jésus est un chemin de rose et de miel à vue des autres chemins. Alors, pourquoi pas le faire? Et là aussi, il y a Saint François d'Assise, un jour, qui a eu une vision. Il voyait ces moines qui essayaient de s'élever jusqu'à notre Seigneur, donc par une échelle de couleur rouge et d'une pente qui était très, très abrupte. Et à chaque fois qu'ils avaient monté quelques échelons, ils retombaient. Et alors, notre Seigneur va montrer à Saint François une autre échelle de couleur blanche et d'une bande beaucoup plus douce, au sommet de laquelle il y avait la Vierge Marie, la Sainte Vierge. Et il dit à Saint François, recommande à tes fils de passer par l'échelle de ma mère. Donc, vous voyez, très belle histoire, mais qu'il faut essayer de faire. Et c'est aussi un chemin le plus facile, parce que la Sainte Vierge nous soutient de sa mansuétude. Et on dit aussi un chemin plus court, plus sûr, parce que la Sainte Vierge nous aide, elle nous dirige. Et chemin plus sûr parce qu'on est davantage préservé des illusions de celui qui cherche à nous tromper, pour nous conduire ensuite à de grandes fautes. Ce chemin aussi, on est plus préservé des illusions de la rêverie et du sentimentalisme. Donc la vraie dévotion à la Sainte Vierge n'est pas une dévotion sentimentale. C'est avoir des roses partout, non. Alors pour terminer, je vous lirai tout simplement cette belle prière de Saint Bernard, je pense que vous connaissez, mais qu'il faut faire sienne, et dans les moments de difficulté, savoir la refaire. Voilà ce que dit Saint Bernard. Si les tempêtes des tentations s'élèvent, si vous êtes au milieu des écueils des tribulations, jetez les yeux sur l'étoile de la mer, appelez Marie à votre secours. Si vous êtes ballotté sur les vagues de la superbe, de l'ambition, de la médisance, de la jalousie, regardez l'étoile, invoquez Marie. Si la colère, l'avarice, les plaisirs de la chair agitent la barque de votre âme, regardez Marie. Si, troublé par la grandeur de vos crimes, confus de l'état misérable de votre conscience, saisi d'horreur à la pensée du jugement, vous commencez à vous enfoncer dans l'abîme de la tristesse et du désespoir, pensez à Marie. Au milieu des périls, des angoisses, des incertitudes, pensez à Marie, invoquez Marie. Que son invocation, que sa pensée ne quitte ni votre cœur, ni vos lèvres, et pour obtenir plus sûrement le secours de ses prières, ne négligez pas d'imiter ses exemples. En la suivant, vous ne vous égarez pas. En la suppliant, vous ne pouvez désespérer. En pensant à elle, vous ne vous égarez pas. Tant qu'elle vous tient par la main, vous ne pouvez choir. Sous sa protection, vous n'avez rien à craindre. Sous sa conduite, point de fatigue. Et par sa faveur, on arrive sûrement au but. Voilà donc.